destinés à mourir. Moïse a écrit dans le psaume 90, « Si le nombre de nos années s'élève à 70 ans, si nous sommes vigoureux à 80 ans, notre vie passe et nous nous envolons. Un jour, nous allons tous mourir, c'est un fait. Nous pouvons tenter de diverses manières d'éviter cette triste réalité. Nous pouvons essayer de nous convaincre que les recherches scientifiques apporteront une solution pérenne, que la qualité de notre mode de vie fera la différence. Nous pouvons même nous plonger dans des distractions de remplacement. Nous ne pourrons pas éviter, tôt ou tard, cette confrontation à la mort. Il existe un fait, c'est que le taux de mortalité pour chacun d'entre nous est de 100%. Tous meurent. Le sage comme le stupide, dit la Bible, le croyant comme l'incroyant, le riche comme le pauvre, l'orgueilleux comme le humble. Et là, je n'y fais rien. Alors peut-être qu'il y a une petite voix en nous qui nous dit « je n'ai pas envie d'entendre cela aujourd'hui ». J'aurais besoin d'autre chose car ma vie n'est pas simple. Peut-être que cette petite voix nous dit, avec toutes ses préoccupations, maintenant on me dit que je vais mourir. En réalité, j'avoue que je n'aurais jamais, il y a seulement quelques jours, pensé que nous serions là à aborder cette question. Nous avons vu Pierre il y a une dizaine de jours, il était au culte. Tout allait à peu près bien. Rien ne laissait présager que le Seigneur allait l'appeler. Nous pourrions éviter ce sujet terrible, c'est vrai, si nous n'avions pas la plus belle réponse, celle que nous apporte l'Évangile. Le cœur du problème, c'est que dès notre naissance, nous sommes destinés à mourir. Il y a un temps pour tout sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et l'apôtre Paul nous entraîne dans le début de ce chapitre que nous avons entendu de l'Épître aux Éphésiens. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés. Morts à cause d'eux. Comment réconcilier la condition de Dieu et la nôtre si nous appartenons à ce monde. Au premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, Paul décrit et nous fait contempler l'extraordinaire sommet de la puissance, de la souveraineté et de l'autorité de Jésus. Il est au-dessus de tout, plus glorieux que tout. Au-dessus de toute principauté, nous dit le verset 21, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui ne peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Et voilà notre réalité. Et voilà la réalité de Dieu. Dans le chapitre que nous avons entendu, le décor est posé, il est tout autre. Au début, c'est un décor de notre triste situation. Quel contraste entre Dieu et nous. Lui est libre, Jésus est libre et vivant, il est dans la gloire au ciel. Et nous, nous sommes là sur la terre, esclaves, enchaînés à nos propres désirs. Paul nous dit que bien que vivants, nous sommes tous morts à cause du péché. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas forcément notre état, comme cet aveugle de naissance à qui on explique les couleurs du ciel. Qu'est-ce qu'il peut s'y entendre? Il n'a jamais vu. La Bible dit que les hommes sont perdus. Pierre était perdu, nous étions perdus. À l'origine, nous n'étions pas destinés à cela. Dans le livre de la Genèse, Dieu avait créé l'homme pour vivre en harmonie avec lui, en paix, en relation parfaite, nous le savons, et l'ennemi de Dieu est venu. Il est venu, il a promis que l'homme vivrait. A-t-il vraiment dit que vous mourriez, que vous allez mourir si vous mangez de tous les arbres? De celui-ci en particulier. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent lui dit, pas du tout. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon et mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue. Elle prit de son fruit et en mangea, elle le donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Aïe. Depuis, l'homme a souvent envie du ciel sans s'en rendre compte même. Même s'il ne dit ne pas croire en Dieu, il a envie du ciel, ce ciel qui est fermé. C.S. Lewis dit, la plupart des gens, s'ils avaient vraiment appris à lire dans leur propre cœur, sauraient qu'ils aspirent très fortement à quelque chose que ce monde ne peut pas leur donner. Tout ce qui s'offre à nous ici-bas ne tient jamais totalement ses promesses. Nos aspirations, lors de notre premier amour, ou nos projets de voyage ou de visite à l'étranger, ou l'étude d'un sujet passionnant, ne peuvent se réaliser. Ni un mariage, ni un voyage, ni la recherche approfondie. L'épouse peut être excellente, l'hôtel ou le paysage très beau, le travail fort intéressant, nous resterons et nous restons toujours insatisfaits. Les plus belles joies de ce monde ne parviendront jamais à nous satisfaire. Alors peut-être on se rassure en disant « je suis moins mauvais qu'un autre » ou qu'un tel en particulier. Paul dit « quant à vous, vous étiez mort ». C'est intéressant, il ne dit pas « vous êtes mort ». Vous étiez mort. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, cette fatalité, quelqu'un ne l'a pas acceptée. Dieu ne l'a pas acceptée. En effet, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu va gratuitement justifier, c'est-à-dire il va rendre l'homme parfait. C'est extraordinaire. Une solution va surgir et cette solution surgit de l'extérieur de notre monde, par la venue de Jésus. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'apôtre explique, mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le mot « mais Dieu », ces deux mots vont absolument désormais tout changer, comme ils ont un jour tout changé dans la vie de Pierre et dans la vie de la plupart de ceux qui sont ici. Comme la lumière va percer les ténèbres de ce monde, l'espoir qui va pénétrer cet océan de désespoir, notre condition d'homme n'est plus désespérée. Il n'y a plus de fatalité avec Jésus. Dieu est venu à notre secours. Lui qui est riche en miséricorde, c'est-à-dire si bon et si plein d'amour. Il est venu. Et Paul commence à parler du cœur de Dieu, qui a cherché le moyen pour nous faire échapper à la condition de notre mort. De Dieu, il est dit que personne ne peut le voir face à face et vivre, disait Nicolas Wolterstorff. Pour moi, dit-il, cette déclaration a toujours signifié que personne ne pouvait supporter l'éclat de la splendeur et vivre, de la splendeur de Dieu et vivre. Et quelqu'un a suggéré une autre interprétation. Personne ne peut voir la tristesse de Dieu sur ce monde et vivre. Oh, quel amour! La tristesse de Dieu sur notre situation, Dieu a été comme poussé par sa bonté, son amour pour nous, non à cause de notre gentillesse ou à cause de notre pureté ou notre altruisme naturel. Nous étions morts dans nos péchés, nous n'avions pas tout cela. Et il est venu nous saisir la main. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, comme disait Pierre, il aimait beaucoup cette expression, le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime. Il nous a aimés, aimés et encore aimés. C'est cela la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a coûté à Dieu ce qu'il avait de plus cher. Jésus a été envoyé dans ce monde pour aimer et souffrir, pour souffrir et aimer encore jusqu'à la croix. Jésus a volontairement abandonné l'exercice de sa puissance. Il a volontairement abandonné le ciel. Il a volontairement supporté l'épreuve, supporté d'être durement et injustement traité. Il a assumé l'agonie physique et spirituelle. Et il est mort parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Pierre Mulinengo disait que toutes les pages de la Bible, chaque page, nous parle de l'amour de Dieu. C'est cela la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a coûté à Dieu ce qu'il avait de plus cher, parce qu'à travers la croix, Jésus voyait au-delà. Il voyait notre situation désespérée, un au-delà. Il voyait notre liberté, notre réconciliation avec Dieu. La mort a été vaincue par la résurrection de Jésus. Et la résurrection va absolument, absolument tout changer. Parce que la croix sans la résurrection est un non-sens. Le témoignage des apôtres serait vain. Le message de l'Évangile serait vain. L'œuvre du concours biblique serait vaine. Les œuvres chrétiennes seraient vaines. Le christianisme n'aurait aucun sens sans la résurrection de notre Seigneur. La résurrection, c'est la plénitude de notre foi. C'est un fait. Et comme dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, notre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection donc va tout changer. Elle va devenir une bénédiction et à portée de main à celui qui fait seulement confiance. Un don de Dieu. Le pardon devient incontestable. La paix devient réelle. La gloire nous sera donnée et la vie éternelle est accessible par Jésus. Pierre a fait seulement que nous devancer. Juste une petite parenthèse sur ce fait de résurrection. La résurrection de Jésus n'est pas un mythe, une légende qu'on a bâtie pour pouvoir trouver voilà, de quoi raconter une histoire. Nombreux sont ceux qui ont voulu renverser cette affirmation et n'y sont pas arrivés face à de sérieuses preuves. Brooke Westock disait ceci, un scientifique chrétien, « Il n'y a pas d'incident historique qui soit mieux ou plus soutenu et de façon plus variée que la résurrection de Jésus-Christ. » Un petit détail, on ne va pas rentrer dans cela, mais on peut dire une chose, c'est que les preuves historiques de la résurrection sont bien là. Et comme l'a écrit Charles Spurgeon, le fil argenté de la résurrection court tout au long des bénédictions que possède le croyant, depuis sa rencontre avec son Seigneur, ça s'est passé dans sa cuisine, pour Pierre, jusqu'à son entrée dans la gloire éternelle. Ça s'est passé jeudi dernier pour notre frère. Christ est réellement ressuscité. Et c'est ce que déclare aussi l'auteur du livre des psaumes que nous avons lu. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil et tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur terre. Et ce psaume ajoute pour moi, m'approcher de Dieu est mon plus grand bien. Jésus a dit des paroles qui sont fortes de sens et qui résonnent encore aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus ajoute, crois-tu cela? Notre attente de la résurrection, a écrit Pierre, et de grandes retrouvailles doit atténuer la tristesse de la séparation. Ce n'est qu'un au revoir. C'est cela la grâce de Dieu. C'est pourquoi Pierre voulait que la lumière soit fixée sur le Seigneur et son œuvre. C'est ce qu'il enseignait. Et quel enseignant! Quel pédagogue! La grâce de Dieu est pour chacun. Il a été pour Pierre, il a été pour d'autres. Il est pour toi, pour moi. Nous qui étions morts dans notre situation, évidemment, on ne peut se revêtir que d'humilité face à la profonde bonté de Dieu envers nous. C'est un don de Dieu. La décision de Dieu de nous sauver, nous donner la vie, ne doit pas nous flatter, mais le glorifier. C'est ce que désirait notre cher frère. Et c'est pourquoi notre frère Pierre ne voulait pas de lumière. Il voulait servir Dieu, coûte que coûte, et transmettre. Et transmettre ce message. Alors à la famille et particulièrement aux enfants, vous avez été embarqués malgré vous dans cette histoire. Et il a si bien dit, les parents font des choix et les enfants suivent. Mais quelle bénédiction, en réalité, quelle grâce de Dieu. Pierre a eu un ministère béni. Pour moi, la définition d'un ministère béni ou d'un témoignage béni, c'est que d'autres puissent avoir une vision élargie de l'amour de Dieu. Pierre l'a fait. Il m'a donné une